Journal présenté par Claire Flochel.
Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle élection municipale aujourd'hui à Istanbul en forme de quitte ou double pour le président Erdogan. Le premier scrutin il y a près de 3 mois avait été gagné par une figure montante de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, qui pourrait à nouveau l'emporter. Nous serons à Prague aussi où les Tchèques vont manifester contre la corruption pour réclamer la démission du premier ministre. Il pourrait être des centaines de milliers. Après les menaces de bombarder l'Iran, Donald Trump passe à la guerre informatique des cyberattaques contre des sites sensibles selon des médias américains. Récit de Loïc Piala dans ce journal. C'est l'homme qui monte chez les Insoumis. Adrien Quatennens devient numéro 2 du mouvement en pleine réorganisation après la claque des européennes. La France insoumise qui tient cet après-midi son assemblée représentative. Istanbul élit donc à nouveau son maire ce dimanche. Un premier scrutin le 31 mars dernier avait vu la victoire du candidat d'opposition Ekrem İmamoğlu. Mais son élection a été annulée pour vice de forme. Reste que selon toutes les enquêtes d'opinion des dernières semaines, c'est bien ce candidat d'opposition qui fait toujours la course en tête. Et même dans les quartiers traditionnellement les plus proches des islamistes, on finit par se détourner d'eux. Reportage à Istanbul d'Éric Biegala.
Üsküdar, sur la rive asiatique du Bosphore, 550 000 habitants, l'un des 39 districts d'Istanbul. Ici, on a toujours voté majoritairement pour les partis islamistes, mais ça pourrait être en train de changer. Esra, 25 ans, étudiante, n'est pas forcément contre voter cette fois pour le candidat d'opposition, Ekrem İmamoğlu, ce dimanche.
En fait, j'aime beaucoup İmamoğlu. J'aime bien comment il parle, j'aime bien son style, tout ça. Le seul problème pour moi, c'est l'alliance qu'il a fait avec le HPD, les Kurdes.
Un peu plus loin sur l'esplanade, Youssouf, la cinquantaine, a décidé de sauter le pas. Lui ne votera plus pour l'AKP. Mais pour İmamoğlu.
Regardez la Turquie, on est en crise, il y a du chômage partout. Moi j'ai été viré il y a 2 mois, le patron n'avait plus de contrat, il a dû me licencier. Et si on en est là, c'est bien de leur faute à l'AKP. L'AKP est au pouvoir depuis très longtemps, donc pourquoi ne pas essayer autre chose ?
En mars, le candidat du parti d'İmamoğlu, un parti laïque, était arrivé en seconde position à Üsküdar, mais à 3 points du premier seulement. Il n'est pas exclu que cette fois, il finisse en tête. Ce serait une première dans ce fief de l'islam politique turc.
Éric Biegala, envoyé spécial à Istanbul pour France Culture. À Prague, les Tchèques devraient descendre dans la rue par plusieurs centaines de milliers cet après-midi. 350 000 personnes, espèrent les organisateurs, soit plus du double de la manifestation du 4 juin pour continuer de réclamer la démission du Premier ministre Andrej Babiš, soupçonné entre autres choses de fraude aux fonds européens pour son enrichissement personnel. À Prague, notre envoyé spécial Ludovic Piétenu.
Ce sera peut-être la plus grande manifestation de ces 30 dernières années depuis la transition démocratique et la chute du communisme. Les Tchèques n'ont pas pour habitude de protester, mais depuis bientôt 2 mois, la donne a changé et les rassemblements sont à chaque fois toujours plus importants. Ils n'avaient déjà plus foi en la classe politique quand l'homme d'affaires Andrej Babiš est apparu, a profité de ce vide et de cette défiance pour se lancer en politique, gagner leur cœur et prendre le pouvoir, jusqu'à les décevoir et mettre en colère une partie d'entre eux, depuis des révélations de conflits d'intérêts entre ses fonctions de chef de l'exécutif et ses propres affaires. Babiš est la deuxième fortune du pays. Il possède près de 300 sociétés dans l'agroalimentaire, la chimie, les médias, les transports. Mais la Commission européenne, depuis le début du mois, est formelle. Bruxelles lui réclame le remboursement de plus de 17 millions d'euros de subventions européennes. Cette situation politique n'est donc pas seulement un enjeu pour la République tchèque, mais aussi pour l'ensemble des pays contributeurs de l'Union européenne.
Ludovic Piétenu, envoyé spécial à Prague pour France Culture. Le bras de fer continue entre Washington et Téhéran. Après avoir renoncé in extremis à bombarder l'Iran et après la destruction d'un drone américain par les Iraniens dans le ciel du Golfe, Donald Trump promet pour demain l'annonce de nouvelles sanctions majeures contre Téhéran, toujours dans le cadre des pressions économiques et diplomatiques pour obliger l'Iran à renoncer à l'arme nucléaire. Et selon des médias américains, dont le Washington Post, on a franchi un cap. Les États-Unis ont lancé cette semaine des cyberattaques contre des sites stratégiques en Iran. À Los Angeles pour France Culture, Loïc Piala.
Ces attaques ont été menées par US Cybercom, une structure spécialisée au sein du ministère de la Défense. Si elles n'ont pas fait de dommages ou de victimes humaines, elles n'en restent donc pas moins des opérations militaires. Elles auraient visé un système informatique utilisé pour lancer des missiles, ainsi que le groupe considéré responsable de l'attaque de 2 pétroliers la semaine dernière. ont-elles été efficaces ? Trop tôt pour l'affirmer, les dégâts sur les réseaux informatiques ne seront de toute façon pas permanents. Donald Trump doit annoncer lundi de nouvelles sanctions contre l'Iran. Le président américain, moins belliqueux que certains de ses conseillers, préfère mettre la pression économiquement sur ses rivaux. Les cyberattaques lui offrent une option supplémentaire, moins violente qu'un conflit armé. Mais la République islamique a aussi des pirates informatiques. L'administration Trump a conseillé samedi au monde industriel de surveiller d'éventuelles attaques venues d'Iran.
Précision signée Loïc Piala. Le Mexique continue de renforcer la surveillance de ses frontières avec le déploiement en cours de plusieurs milliers d'hommes de la garde nationale, de la police et du service des migrations pour empêcher le passage de migrants clandestins vers les États-Unis. C'est la réponse de Mexico aux exigences de Donald Trump. Il a menacé le Mexique de sanctions douanières si le pays n'agissait pas davantage contre l'afflux de migrants venus d'Amérique du Sud avec l'espoir de passer aux États-Unis. La page des européennes à peine refermée, la plupart des formations politiques en France se mettent déjà en ordre de bataille pour les municipales de l'an prochain. C'est le cas notamment de la France Insoumise qui tient cet après-midi son assemblée représentative. Elle doit réunir 250 personnes au bois de Vincennes à Paris. Un rendez-vous présenté comme un nouveau point d'épargne et de réflexion autour de la vie du mouvement. Hier, le député du Nord, Adrien Quatennens, est devenu le nouveau coordinateur du parti, ce qui revient officieusement à en être le numéro 2 après Jean-Luc Mélenchon, dont il est proche. Jean-Luc Mélenchon qui devrait s'adresser aujourd'hui directement aux militants. Sophie Delpont.
Le chef de la France Insoumise a longtemps hésité avant de prendre la parole ici, devant les militants. Finalement, il devrait notamment dévoiler la suite de son engagement au sein du mouvement. Malgré le mauvais résultat au scrutin du 26 mai dernier, le mode de fonctionnement n'est pas remis en cause, selon le député européen Manuel Bompard.
La place de Jean-Luc Mélenchon dans le mouvement de la France Insoumise, elle est assez simple. Il est président du groupe parlementaire. C'est le groupe parlementaire qui choisit son président parmi ses membres. Donc c'est finalement à eux que la question sera posée sur la base de ce qu'aura indiqué Jean-Luc Mélenchon, de savoir s'il souhaite ou non poursuivre son mandat en tant que président du groupe parlementaire. Pour le mouvement lui-même, Jean-Luc Mélenchon n'occupe pas de fonction particulière au sein du mouvement de la France Insoumise.
Et nul besoin de demander aux militants de la France Insoumise leur avis sur la question, selon Rani Slimane, ancien candidat sur la liste des européennes. Aucun vote n'est d'ailleurs prévu sur le sujet.
Si jamais demain on fait voter les Insoumis sur le fait que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est toujours le leader, enfin, il n'y a pas besoin de vote parce que ça sera majorité écrasante qui dira oui. Ça, c'est plus un plébiscite pour le coup et c'est pas trop la philosophie de la France Insoumise.
Mais les critiques se sont multipliées sur le manque de démocratie en interne et sur l'impossibilité de débattre de la ligne politique. C'est d'ailleurs cette dernière raison qui a motivé le départ de Charlotte Girard, figure emblématique de la France Insoumise.
Sophie Delpont pour France Culture. Les écologistes aussi se réunissent ce week-end. Hier à Paris, Europe Écologie Les Verts, fort de sa troisième place aux européennes, a affiché ses ambitions pour les municipales. Le mouvement veut proposer des listes 100% écolo dans quasiment toutes les grandes villes de France. La grande place de la Maison du Peuple bondée hier à Belfort. Des milliers de personnes en soutien aux salariés de General Electric. 5000 selon la préfecture, 8000 selon l'intersyndicale. Pour lutter contre le plan social annoncé par le groupe, 1044 postes supprimés dans toute la France, dont au moins 800 sur le site de Belfort. La vie de Galilée, la pièce de Brecht, revient à la Comédie Française pour la deuxième fois seulement de son histoire. Nouvelle version signée Éric Ruff. Brecht, le dramaturge allemand, a écrit la pièce en 1938 pendant son exil au Danemark. Il y retrace la vie de l'astronome italien Galilée, considéré comme le fondateur de la physique. Stéphane Capron.
Brecht a écrit un biopic théâtral. Dans certaines versions, le côté politique de l'œuvre prend le dessus sur l'évocation historique. Ici, Éric Ruff a choisi de dresser le portrait d'un génie obstiné, résistant à l'obscurantisme religieux. Galilée, avec sa lunette astronomique, permet à l'Italie du XVIIe de lever les yeux au ciel et de comprendre que la Terre tourne autour du Soleil. Hervé Pierre incarne avec gourmandise ce Galilée.
On s'allonge l'été dans un champ et on regarde les étoiles. Mais on sait ce que c'est. Mais il faut arriver à imaginer à ce moment-là, quand on découvre que le ciel n'est pas ce qu'on imaginait qu'il est. Donc c'est vivre en fait sur le plateau l'éblouissement de la découverte et puis ensuite la difficulté en fait de faire en sorte que les gens viennent simplement regarder dans la lunette, simplement découvrir cette beauté, cette magnificence. Et puis d'être après en but au dogme de l'Église et finalement de se retrouver à, à vivre un procès de l'Inquisition et de finir sa vie en résidence surveillée, en fait.
La mise en scène d'Éric Ruffe rend hommage aux grands maîtres de la peinture italienne avec des reproductions en très gros plan de tableaux du Caravage et de Raphaël. Le tout est rehaussé par des costumes flamboyants signés Christian Lacroix.
La vie de Galilée à la Comédie-Française à Paris jusqu'au 21 juillet. La météo de ce dimanche est ensoleillée. Le gros coup de chaud attendu sur la France démarre aujourd'hui. Les minimales varieront entre 12 et 18 degrés en général ce matin. L'après-midi, les maximales grimpent pour atteindre 23 à 28 degrés près des côtes, 27 à 31 degrés sur une grande partie du pays.